8h42 à Paris, tout de suite le sport. Avec Antoine Grenier et du foot à la une, la 7e et avant-dernière journée de Ligue des Champions. Mo Salah et Liverpool visent le 7 sur 7.
Les Reds seuls en tête grâce à leurs 6 victoires en 6 matchs et qui reçoivent Lille à Anfield Road. Énorme défi pour un LOSC miné par les blessures. L'occasion de revoir Mohamed Bayo dans le groupe des joueurs convoqués. Le Guinéen qui pourrait rebondir ailleurs durant ce mercato et qui traverse une saison compliquée, Cédric de Oliveira.
Les satisfactions sont peu nombreuses ces derniers temps pour Mohamed Bayo. Alors l'attaquant guinéen devrait apprécier l'ambiance d'Anfield, même s'il n'est pas considéré comme un joueur indispensable par son entraîneur Bruno Genesio.
Alors je vais parler de Momo parce que c'est quand même un joueur de l'effectif qui est censé pouvoir prendre le relais soit en cours de match, soit d'un match à l'autre.
La déclaration a eu lieu il y a 2 semaines, mais les choses n'ont pas changé. Bayo est au mieux remplaçant. Son temps de jeu est limité cette saison. Titulaire à Madrid pour y affronter l'Atlético en octobre, il a joué 10 minutes contre Stormgrass avant la trêve. Ce n'est guère mieux en Ligue 1, mais son entraîneur croit toujours en ses qualités.
Je suis quelqu'un d'empathique et il n'est pas exclu du groupe. Ni pour des raisons d'éventuel départ, ni pour d'autres choses.
2 ans et demi après son arrivée dans le Nord, Bayo peine à retrouver le niveau qu'il avait à Clermont. Cette saison, l'attaquant de 26 ans n'a marqué que 2 fois. C'est trop peu pour une équipe aussi ambitieuse que le LOSC, qui disputera au minimum les barrages de la Ligue des Champions.
Liverpool-Lille, coup d'envoi 20h, temps universel. Une journée qui débutera à 17h45 TU avec l'Atalanta Bergame, 13e face au Sturmgrat. C'est l'AS Monaco, 16e, qui se mesure à Aston Villa, 5e du classement. Barcelone, le dauphin de Liverpool, se déplace à Benfica. Et également au programme, le Bayer Leverkusen, 4e en déplacement sur le terrain de l'Atlético de Madrid.
Le football européen, agité par le marché des transferts et un international ivoirien, change de club.
Maxwell Cornet est prêté au Genoa en Serie A italienne. Sous contrat avec West Ham, le latéral de 28 ans, 31 sélections avec la Côte d'Ivoire, rejoint l'actuel 12e du championnat italien après avoir débuté sa saison en Angleterre à Southampton pour qui il n'a joué que 4 matchs.
En handball, le tour principal du mondial masculin démarre aujourd'hui.
Une nation africaine concernée, la Tunisie. À 14h30, temps universel, les Aigles de Carthage affrontent la Suisse, un des adversaires les plus abordables d'un groupe 1 qui compte aussi le Danemark et l'Allemagne. Une journée également consacrée aux matchs de classement avec la Guinée face au Koweït et l'Algérie contre la Pologne. Hier, une autre nation africaine a rejoint le tour principal de ce mondial, le Cap-Vert, qui a décroché sa première victoire dans le tournoi en dominant Cuba 38-28. Succès qui lui permet donc de se qualifier pour ce tour principal. Et ce, pour la 2e fois de son histoire après le Mondial 2023. L'ailier gauche Alexandre Pereira est ravi et se prend à rêver encore plus grand.
C'est incroyable pour notre pays et notre peuple. C'est la Coupe du Monde, l'épreuve à laquelle tout le monde veut participer. Et en plus, on gagne par 10 buts d'écart. C'est génial. Moi, j'ai juste fait mon travail. J'ai marqué 8 buts, mais le plus important, c'est la victoire. Maintenant, il faut penser au tour principal. Nous savons que la Croatie et l'Égypte sont des équipes de haut niveau. D'ailleurs, l'Égypte a battu la Croatie, qui est l'un des favoris pour le titre. Quant à l'Argentine, on va l'affronter les yeux dans les yeux. On vient de réaliser notre rêve et à partir de maintenant, rien n'est impossible.
Alex Pereira avec Marco Martins, le Cap-Vert qui jouera son premier match du tour principal demain, mercredi, face à la Croatie.
Antoine Grenier pour le Journal des Sports. Un 2e épisode ce matin de notre série de reportages dédiés au Soudan du Sud et aux réfugiés climatiques. Plus de 70 000 habitants déplacés par la montée des eaux du Nil ont trouvé refuge le long du canal de Jonglei dans l'état du même nom, isolé, coupé du reste du monde par des inondations qui durent depuis plusieurs années maintenant. La situation politique aggrave encore un peu plus le quotidien de ces sinistrés qui vivent dans un bastion de l'opposition armée du vice-président Riek Machar, entré en guerre contre le président Salva Kiir en 2013. Un accord de paix a été signé en 2018, mais pour les habitants de ces zones sous contrôle de l'opposition, il reste lettre morte et la crise humanitaire n'en finit pas de s'aggraver. Florence Mietto s'est rendue à Paguong, où vivent plus de 10 000 réfugiés climatiques.
Des nénuphars flottent dans l'eau stagnante le long de la digue qui entoure le village de Paguong. Gatluak Chwoldong, un officiel local, se remémore comment la communauté a été déplacée à plusieurs reprises par la montée de l'eau.
Les inondations nous ont poussés vers l'est. Nous avons dû abandonner notre bétail et migrer jusqu'au canal. Mais ces berges ne peuvent pas accueillir un grand nombre de personnes. Donc nous avons décidé de chercher un endroit où construire une digue pour mettre nos enfants et nos anciens à l'abri. C'est ainsi que nous avons construit cette digue.
Propriétaire d'une demi-douzaine de vaches qu'elle trait chaque matin, Nyakwam Deng Jokniang, 35 ans, mère de 3 enfants, confie que la nourriture manque.
Nous avions beaucoup de vaches avant les inondations, mais beaucoup sont mortes. Celles-ci sont les seules qu'il nous reste.
Elle montre une poignée de végétaux de forme ronde coupée en deux dont l'intérieur est rempli de grains blancs.
Ces bulbes de nénuphars, c'est ce qui nous permet de survivre. Nous les ramassons dans l'eau, nous les faisons sécher et nous les transformons en farine pour les cuisiner et les manger sans aucune sauce. Le lait des vaches, nous ne le donnons qu'aux enfants car il n'y en a pas assez pour nous les adultes.
De l'aide alimentaire doit être livrée bientôt par avion. C'est pourquoi la communauté coupe des arbres pour créer une zone de largage dans la forêt inondée. Philippe Kouandroa, le chef de l'administration locale, supervise les travaux. Avant le début de la guerre civile en 2013, il était enseignant à Ayod, la capitale du comté, aujourd'hui contrôlée par le gouvernement. D'enseignant, il est devenu combattant aux côtés des forces de Riek Machar, en guerre contre l'armée gouvernementale jusqu'à l'accord de paix de 2018. Un accord qui n'a, selon lui, pas été mis en œuvre.
S'il y avait vraiment la paix au Soudan du Sud, les gens ne souffriraient pas comme maintenant. Avant la guerre, nous étions à Ayod. Nous n'habitions pas dans ce coin reculé. Tout le monde vivait ensemble et travaillait. Les gens faisaient de l'agriculture et élevaient leur bétail. Mais quand les combats ont éclaté, tout s'est effondré. J'en appelle à la communauté internationale pour que cet accord de paix soit enfin mis en œuvre et que nous reprenions une vie normale.
L'officiel espère qu'une réconciliation entre les communautés sera possible afin que les habitants des bastions de l'opposition puissent circuler librement. Florence Mieto, de retour de Paguang, RFI.
Et cette série de reportages est à retrouver sur notre site rfi.fr. Demain, on écoutera le dernier épisode consacré aux difficultés d'accès aux soins pour ces réfugiés dans le canal de Jonglei. C'est l'un des secteurs évoqués hier par le nouveau président américain lors de son discours d'investiture, l'automobile. Et outre l'assurance donnée aux Américains qu'ils pourront acheter les voitures qu'ils veulent, Donald Trump n'a pas caché sa volonté de voir fleurir l'industrie automobile américaine. Voilà qui a de quoi inquiéter l'Afrique du Sud, où l'industrie automobile est l'une des plus importantes pour l'économie du pays. 2 véhicules sur 3 produits en Afrique du Sud sont destinés à l'export, principalement vers les États-Unis. Alors, la nouvelle administration américaine rend l'avenir incertain pour l'industrie automobile sud-africaine. C'est notre dossier Afrique Économie, il est signé Valentin Hugues.
L'industrie automobile sud-africaine compte sur les États-Unis. En 2023, c'est plus d'€1 milliard d'exportation. Et si le protectionnisme de Donald Trump pourrait avoir un impact dévastateur pour l'Afrique du Sud, Norman Lamprecht du Conseil économique de l'automobile en Afrique du Sud reste confiant.
Aucun pays n'est autosuffisant. Chaque pays importe et exporte. Je pense qu'il faut être réaliste vis-à-vis de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Parce que vous avez toujours besoin d'importer depuis d'autres pays des matières premières pour les véhicules électriques en provenance d'Afrique du Sud, par exemple. Les États-Unis risquent d'être perdants si toutes ces opportunités sont saisies par des pays comme la Chine. Je pense donc qu'il faut vraiment être réaliste et je suis sûr que le président Trump a beaucoup de conseillers à ce sujet.
Reste que Donald Trump affiche une certaine hostilité vis-à-vis de l'Afrique du Sud et les BRICS en général. Et le doute plane concernant l'avenir de l'AGOA, un pacte commercial mis en place par les États-Unis dans les années 2000, qui favorise les échanges de marchandises avec certains pays africains, monnayant très peu de droits de douane. Un pacte qui a permis un boom des exportations de véhicules sud-africains, plus 500% en un peu plus de 20 ans. Brandon Cohen, porte-parole de l'Association nationale des concessionnaires automobiles.
Si Trump revient sur la participation de l'Afrique du Sud au sein de l'AGOA, cela affectera notre industrie nationale.
L'avenir de ce traité sera donc décisif pour l'industrie automobile sud-africaine. Mais pour l'économiste Tanti Payi. Il y a également d'autres menaces avec ce retour de Trump au pouvoir.
Aujourd'hui, on ne peut pas savoir quelles seront les futures relations économiques avec les États-Unis. Mais moi, ce qui me préoccupe, ce sont les répercussions sur l'Afrique du Sud des politiques menées par les États-Unis dans son propre pays. Des droits de douane qui ne seront peut-être pas appliqués à l'Afrique du Sud, mais à d'autres partenaires commerciaux et qui pourront avoir une incidence sur les prix et les taux d'intérêt, avec un impact sur la finance mondiale qui nous affectera. Donc oui, l'inquiétude est là.
Une baisse des exportations sud-africaines pourrait aussi pousser des concessionnaires présents en Afrique du Sud à reconsidérer leur implantation dans le pays. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
RFI à Johannesburg, il est 9h52, musique.
Levou, deixa ela lhe levar. Num dia ela te leva, no outro dia ela te dá.
Onda vai, onda, onda vem, onda.
Onda, c'est ce qu'on entend, hein. C'est l'une des nouvelles chansons du brésilien João Selva. Elle donne son nom à l'album qu'il vient de sortir et c'est notre choix musical sur RFI ce matin. Bonjour Edmond Sadaka.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Alors João Selva, c'est l'un des artistes incontournables de la scène brésilienne actuelle.
Oui, il est chanteur, compositeur, multi-instrumentiste et sa musique, c'est un mélange assez détonnant. On peut y entendre des influences du samba angolais, du zouk caribéen aussi ou encore de la rumba congolaise. Tout cela mélangé à de la funk et à de la samba. Bref, vous l'aurez compris, cela donne des chansons qui sont de redoutables machines à danser.
Mais c'est vrai qu'on a envie de danser. Quero Você, extrait de Onda, nouvel album de João Selva. Son quatrième disque qu'il a enregistré en France l'an dernier.
Exactement, ce natif de Rio est installé d'ailleurs en France depuis quelques années, déjà à Lyon précisément. C'est là qu'il travaille aux côtés de son complice de toujours, le bassiste Bruno Patchwork. Évidemment, João Selva fait beaucoup d'allers-retours entre la France et le Brésil. D'ailleurs, l'idée de ce disque, elle lui est venue l'an dernier lors d'un périple sur la côte brésilienne, João Selva.
J'étais là au Brésil pendant la période du pré-carnaval, donc en janvier 2024, et j'ai pu baigner dans cette joie collective qui règne pendant le carnaval. Et puis c'est vrai que quand on passe du temps loin de son pays, quand on y retourne, on est encore peut-être plus réceptif à cette ambiance de joie de vivre, encore une fois, et aussi une diversité culturelle incroyable qu'on a au Brésil. Donc c'est tout ça qui m'a inspiré pour cet album.
Subiu pelo pavê, fui no passo sem saber, me derreti de prazer, na roda ui rolê, cê tava lá, você inspira o meu ser, o seu jeito de viver. Ó pai, ó meu bem, você me diz, só vem, na fé vou lá. Ao som de Gil e Caê, acaba aqui pra valer, isso é ideia. Ao som de Gil e Caê, vatapá e Nendê, vou-me embora pra me banhar na tua Bahia.
Fantastica Bahia, nouvel extrait de l'album Onda de João Selva. Un mot sur ce titre, Edmond?
Oui, un titre teinté, comme vous avez pu l'entendre, d'influences très diverses, funk, disco, soul également. Il y rend hommage d'ailleurs à un moment à deux de ses illustres aînés, Caetano Veloso et Gilberto Gil, et pour cause.
Caetano Veloso, Gilberto Gil, ils m'ont un peu montré la voie. C'est sûrement les deux musiciens que j'ai le plus écouté. Et ils ont réussi avec la Tropicália, ce mouvement artistique de la fin des années 70, à faire en sorte que la musique brésilienne puisse aussi être pop dans le sens international qu'on peut mettre dans ce terme. Et ça, c'est très propre au Brésil, cette capacité à absorber les cultures qui viennent d'ailleurs.
Levanta na raça, vai levanta na raça. Tem que ter fé na vida, buscar sobrevida, curtir viver. Não fuja da raia, não, não pule da raia. Beco sem saída, segue sua vida, busque prazer.
Vient dans ces titres enregistrés par Joao Salva, aux côtés de la chanteuse française Cléa Vincent, extrait de Onda, tout nouveau disque du chanteur brésilien. Merci Edmond Sadaka d'être venu nous en parler ce matin.
Viens petit pas, on ralentit tout doux et puis on ne s'arrête pas. Vas-y, approche-toi, vas-y, accroche-toi. Toute la nuit, si tu fais comme si, je ferai comme ça. Aïe, c'est beaucoup et c'est rien. Lentement, danser sans lendemain.
Joao Salva, notre choix musical sur RFI ce matin, et c'est ainsi que l'on se quitte. Merci beaucoup à Christophe Pernet qui a réalisé cette matinée d'information. Dans deux minutes, le journal international avec Alban Le Prince. On va revenir sur l'investiture de Donald Trump, son discours et ses décrets signés hier. Ensuite, à 8h10, temps universel, ce sera Appel sur l'actualité. Bonjour Anne Gomez.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
Au programme aujourd'hui, l'AES avec les auditeurs. Vous vous interrogez sur le possible élargissement de l'Alliance des États du Sahel.
Oui, et cette question, le Togo va-t-il rejoindre cette alliance formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger? En tout cas, le ministre togolais des Affaires étrangères ne l'exclut pas. Dans un entretien à la chaîne de télévision Vox Africa, il assure même que la population togolaise est favorable à cette idée. Alors, que vous inspire cette hypothèse? Quels seraient les avantages, voire peut-être les inconvénients pour le Togo? On a envie de vous entendre ce matin, 33 9 693 693 70. Andréane, bonne journée.
Bonne journée à vous.
Dans moins de deux minutes, le journal.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui.
Retrouver un sommeil de qualité sans médicaments.
Demain.
Guerre contre la drogue, qu'en pensent les médecins spécialistes des addictions?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Organisé par le Centre National du Livre, les Nuits de la Lecture reviennent du 23 au 26 janvier avec une programmation littéraire sur le thème des patrimoines. Bibliothèques, librairies, écoles, universités, musées, théâtres proposent des milliers d'événements partout en France et partout dans le monde pour transmettre le plaisir de lire. Plus d'informations sur nuitsdelalecture.fr en partenariat avec France Média Monde.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Un écrivain en mal d'inspiration, rattrapé par la vague MeToo, choisit de prendre le large. Destination Haïti. Voilà le point de départ de Nation Cannibale, le cinquième roman d'Incoli Jean Bofane, roman truculent où il est aussi question de l'histoire qui unit Haïti et le Congo.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.